Les 600 saints parfums n'existent pas pour le sens de l'ouïe. De même, ce que nous saisissons par la foi, selon Marc 11, 24, n'existe pas pour nos 5 sens naturels. Vous ne dites pas qu'une chose que vous voyez n'existe pas, simplement parce que vous ne pouvez ni la sentir, ni la goûter, ni l'entendre. Puisque la foi est comme un sixième sens, pourquoi donc douter de ce que vous avez saisi par la foi, simplement parce que vous ne pouvez pas encore le voir ou le sentir? Nos 5 sens naturels appartiennent à l'homme naturel, dont Paul nous dit qu'il ne peut pas connaître les choses de Dieu. Ce n'est que par notre sixième sens, la foi, que nous pouvons voir et saisir les bienfaits que Dieu nous offre, tant qu'ils ne sont pas pleinement manifestés. Si nous consultons donc nos 5 sens pour avoir la preuve que notre prière a bien été exaucée, c'est aussi ridicule que d'essayer de voir avec nos oreilles ou d'entendre avec nos yeux. Tous nos sens fonctionnent indépendamment les uns des autres, vous voyez ce que vous ne pouvez pas entendre, vous entendez ce que vous ne pouvez pas voir, etc. Ainsi, ce que vous possédez par la foi n'existe pas encore pour vos 5 sens physiques. Il est important que vous compreniez que si vos sens vous disent le contraire de la parole de Dieu, ce n'est aucunement une raison pour douter. Parce que la foi s'appuie sur une évidence spirituelle qui demeure parfaite. Notre foi n'est réelle que si nous croyons malgré toutes les preuves contraires données par vos sens. Abraham a cru à la parole de Dieu, malgré toutes les impossibilités naturelles que lui montraient ses sens. Page 104. La foi ne concerne que ce qui n'est pas du domaine de nos sens. Dès que la chose que nous avions saisie, par la foi se manifeste à nos sens, la foi disparaît. Dieu œuvre tant que nous restons dans la foi, et tant que nous regardons non pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles de Corinthiens 4, 18, et à Dieu, à ses promesses, à sa fidélité, à sa justice, etc. Nous devons garder l'attitude mentale juste, si nous permettons à nos pensées d'être dominées par nos sens, nous ne pourrons jamais avoir une foi victorieuse. Si nos pensées sont gouvernées par nos sens, nous vivons dans le domaine de l'incertitude. Tant que la parole de Dieu ne prendra pas le contrôle de nos pensées, elles seront entièrement dominées par nos sensations et par ce que nous dirons nos sens. Les pensées et l'intelligence de ceux qui recherchent la guérison divine doivent être renouvelées pour être mises en harmonie avec la pensée de Dieu telle qu'elle nous est révélée par la Bible. Si nous gardons l'attitude mentale juste, c'est-à-dire si notre intelligence a été renouvelée, Romains 12, 2, nous pouvons tous avoir une foi ferme. Dieu guérit toujours chaque fois que nous parvenons à coopérer correctement avec lui. Avoir avant de voir, j'ai mis un jour une certaine somme d'argent dans la poche du manteau de ma femme. Plus tard, je le lui ai dit et je lui ai demandé si elle me croyait. Elle m'a répondu, bien sûr, je te crois. Et elle m'a remercié pour cela. Elle possédait cet argent avant même de l'avoir vu. Si nous sommes ainsi capables de croire une simple parole d'homme, pourquoi demanderions-nous une preuve visible à Dieu pour croire qu'il a bien fait ce qu'il a promis? Continuez de croire que Dieu vous a bien donné ce que vous lui avez demandé quand vous avez prié. Remerciez-le et louez-le pour ce qu'il vous a donné, et vous verrez toujours la chose s'accomplir. Une telle attitude fait toujours agir Dieu. Tant de personnes attendent que Dieu les guérisse, alors que c'est Dieu qui attend qu'elles prennent ce qu'il leur offre. Si l'un de vos amis vous tendait un... Page 105. Cadeau, et s'il vous voyait constamment le supplier de vous le donner, combien ce serait pénible pour lui, alors qu'il attendait que vous le preniez. Permettez-moi de vous le dire d'une autre manière. Puisque Jésus nous commande de croire que nous avons déjà reçu la chose que nous lui avons demandée, en priant, avant même qu'elle se manifeste de manière visible, il est clair que cette chose existe sous deux formes, tout d'abord une forme invisible, puis, par la suite, une forme visible. Il faut d'abord croire que nous avons reçu cette chose sous sa forme invisible avant de la voir se manifester sous sa forme visible ou matérielle. Lorsque Jésus a dit « Je te remercie, Père, de ce que tu m'as exaucé », la résurrection de Lazare était déjà accomplie dans le domaine invisible de la foi avant de se manifester, quelques instants plus tard, dans le domaine visible ou matériel. Nous devons croire, exactement de la même façon, que nous possédons déjà notre guérison dans le domaine invisible, avant que Dieu puisse la manifester dans le domaine visible ou matériel. Car la foi est la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Cela prouve que nous devons déjà posséder, dans leur forme invisible, les choses que nous demandons dans la prière, pour que Dieu puisse les manifester dans leur forme visible. C'est pourquoi le sacrifice de louange et d'action de grâce doit être continuellement fait dans le domaine de la foi, pour des bénédictions encore invisibles, avant qu'elles soient manifestées dans leur forme visible. La foi est un titre de propriété. La foi est la démonstration des choses que l'on ne voit pas, Hébreux 11, 1. Le mot « démonstration » pourrait aussi être traduit par « titre de propriété ». Si vous possédez un titre de propriété, c'est la démonstration que vous êtes propriétaire de la chose en question, maison ou autre objet. Ainsi, la foi est le titre de propriété des choses que vous ne voyez pas encore. Si quelqu'un vous donnait le titre de propriété d'une maison que vous n'auriez jamais vue, vous possédez. Page 106. Derrière la maison avant même de la voir. C'est pourquoi Jésus répète souvent « celui qui croit a ». Dans Marc 11, 24, Jésus nous commande de croire que nous avons déjà reçu les choses que nous demandons au moment même où nous prions, sans attendre de les voir ou de les sentir. C'est à cette condition qu'il promet que nous les verrons s'accomplir. Tout ce qui n'est pas cela n'est pas la foi, car la foi est la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Dès que la bénédiction que nous avions saisie par la foi se manifeste, la foi pour cette bénédiction disparaît. Si vous êtes l'héritier d'un riche parent, vous devenez riche au moment même où ce riche parent meurt, bien que vous n'ayez encore rien vu de toutes ces richesses. De même, tout ce qui vous a été légué par le Nouveau Testament de Jésus est déjà à vous, en vertu de la mort de Jésus, l'auteur du Testament. La foi, c'est simplement commencer à se servir de ce qui nous appartient déjà. Le figuier que Jésus a maudit a séché, non pas depuis les feuilles, qui pouvaient être vues de tout le monde, mais depuis les racines, que personne ne pouvait voir. On ne pouvait donc pas voir que l'arbre était mort, en regardant simplement aux feuilles. Notre proclamation d'abolition de l'esclavage, ce qui s'est passé au calvaire constitue notre proclamation d'abolition de l'esclavage. Nous avons été libérés de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Nous devons simplement croire ce que Dieu a dit qu'il a fait pour nous et agir conformément à ce que nous croyons. Prenons cette liberté qui nous a été acquise par le sang de Christ, de la même manière que les esclaves noirs du sud des États-Unis ont pris leur liberté lorsque Abraham Lincoln eut proclamé l'abolition de l'esclavage. Si les esclaves avaient jugé alors la situation d'après ce que leur montrait leur sens, ils auraient dit « Je ne me sens aucunement différent ». Je ne vois aucun changement dans ma situation. Mon environnement est toujours le même. Est-ce que cela aurait été de la foi? La foi, pour eux, a consisté à agir conformément à la liberté qui leur appartenait déjà. Page 107. Ainsi, en croyant à la parole de Dieu et en agissant conformément à cette parole, nous pouvons entrer effectivement en possession de tout ce qui nous appartient déjà en Christ. Si nous préférons croire aux preuves physiques, au lieu de croire à la parole de Dieu, cela revient à anéantir cette dernière. La foi signifie que nous avons quitté le domaine des sens. Vous devez recevoir Christ par la foi avant d'expérimenter la moindre de ses merveilleuses bénédictions. D'abord Christ, ensuite ses bénédictions. Puisque votre pardon est invisible, comment l'avez-vous reçu? Par la foi en la parole de Dieu. Pourquoi ne pas recevoir la guérison divine, la vie et la force de la même manière? Une raison pour laquelle certains ne sont pas guéris, une raison pour laquelle certains ne sont pas guéris est qu'ils croient ce que leur disent leurs cinq sens au lieu de croire ce que leur dit la parole de Dieu. Nous devons comprendre que nos cinq sens appartiennent à l'homme naturel et qu'ils nous ont été donnés pour percevoir les choses de ce monde. Mais les choses de Dieu ne peuvent être ni discernées, ni reçues, ni connues par nos sens physiques. Aucune sensation physique, comme par exemple la douleur, la faiblesse ou la maladie, ne peut jamais être une raison suffisante pour nous faire douter de l'accomplissement de n'importe quelle promesse divine. Il serait insensé pour moi de douter de la promesse du retour de Jésus parce que je me sens malade ou fatigué. Si la douleur n'est pas une raison suffisante pour douter d'une seule promesse de Dieu, elle n'est pas une raison suffisante pour douter de n'importe quelle promesse de Dieu. Dieu est fidèle à toutes ses promesses. Il est donc tout aussi insensé de douter de la promesse que Dieu guérit sous prétexte que nous sentons encore des douleurs que de douter du retour de Jésus-Christ sous prétexte que nous sommes malades. La guérison de notre âme et de notre corps s'appuie sur la vérité éternelle de l'œuvre, parfaitement accomplie par Christ et pas sur nos sensations. Quand le Seigneur vous dit « Je suis l'Éternel qui » Page 108. tu guéris, il veut que vous répondiez avec foi, oui, Seigneur, tu es l'Éternel qui me guérit. Vous ne pouvez pas vous tromper en disant, et en croyant fermement ce que Dieu lui-même dit, c'est-à-dire qu'il est en ce moment même en train de vous guérir et qu'il continuera à œuvrer jusqu'à ce que vous soyez en parfaite santé. La foi, c'est dire et croire ce que Dieu dit et agir en conséquence. Les bénédictions que nous saisissons avec une foi ferme dans les promesses de Dieu finiront toujours par se matérialiser. Nous ne devons pas être irrésolus pour saisir la guérison que nous donne Christ, nous ne devons pas être irrésolus. Jacques dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, Jacques 1:6-8. Nous devons nous revêtir de la pensée de Christ. Cela signifie que nous ne devons voir que ce qu'il voit et agir en conséquence. Ceci est impliqué lorsque nous demandons avec foi. Paul nous demande de nous dépouiller du vieil homme et de ses œuvres, Colossiens 3:9. Ceci inclut les habitudes de pensée de notre vieil homme qui ne se fie qu'à la démonstration de ses cinq sens. Le fait de nous revêtir de l'homme nouveau et d'avoir la pensée de Christ comprend le fait de croire ce qui est écrit et de dire, comme il l'a dit, il est écrit. Rappelez-vous que l'homme, nouveau, n'est pas gouverné par les cinq sens. La parole de Dieu est puissante, la Bible nous dit que chaque parole de Dieu est puissante. Le psaume 120:7 nous dit, il envoya sa parole et il les guérit. C'est sa manière de guérir notre âme comme notre corps. J'ai connu un certain nombre de personnes qui ont été guéries simplement en lisant ces paroles de Ésaïe 53:5, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ils ont alors proclamé, Dieu dit que je suis, page 109, guéri. Je vais croire Dieu et pas ce que je sens. En disant et répétant ainsi ce que Dieu dit, et en agissant en conséquence, ils ont vu même des cancers disparaître. Lorsque nous croyons fermement en la parole de Dieu et que nous mettons notre foi en action, rien ne peut empêcher la puissance contenue dans la parole de manifester toutes choses exactement comme la parole le dit. Tout ce que nous devons faire est de croire fermement ce que la parole dit et de refuser résolument de voir, croire ou penser à tout ce qui contredit la parole. Nous devons nous ranger du côté de Dieu et croire que tout ce dont nous avons besoin pour notre esprit, notre âme et notre corps nous appartient déjà. Dieu a dit à Abraham, « Je t'ai fait père d'une multitude ?» Puis il a changé son nom en celui d'Abraham, qui signifie « père d'une multitude ?» Par la foi, le patriarche répétait continuellement les paroles de Dieu, « Je suis le père d'une multitude ?» Il considérait ainsi les choses, qui n'étaient pas comme si elles étaient, et il donnait gloire à Dieu, par avance. C'est ainsi que ce que Dieu lui avait dit se réalisa dans sa vie. Si vous croyez que Dieu vous a donné tout ce qu'il a dit qu'il vous a donné, et si vous continuez à obéir à sa parole, Dieu ôtera de vous toutes les choses anciennes, et il fera apparaître en vous toutes choses nouvelles en Christ. Dieu nous a déjà tout donné. 2 Pierre 1:3 nous dit que Dieu nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Jésus nous l'a acquis, et Dieu nous dit qu'il nous l'a déjà donné. Ésaïe 53:5 et 1 Pierre 2:24 nous disent que Dieu nous a guéris. Colossiens 1:13 dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Dans Luc 10:19, Jésus dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Romains 6:18 nous dit que nous sommes libres. Quand nous saisissons tout ceci par la foi, Dieu nous avertit, comme dans le cas de Pierre, de ne pas regarder à nos circonstances et à nos... Page 110. Sensation. Quand Pierre marchait parfaitement sur l'eau, les vagues étaient tout aussi hautes que lorsqu'il a coulé. Tant qu'il ne regardait pas les vagues, elles ne pouvaient pas le gêner. Mais à l'instant où il a regardé les vagues, il a douté et il a sombré. De même, le vent était tout aussi fort quand Pierre marchait sur l'eau que quand il a coulé. Tant qu'il n'y faisait pas attention, cela ne pouvait pas le gêner. Dieu nous enseigne dans ce passage que si nous nous occupons de ce que nous voyons et sentons, au lieu de nous occuper seulement de lui et de sa parole, nous perdons tout ce qu'il nous offre. En revanche, en refusant fermement de porter nos regards sur tout ce qui n'est pas Dieu et sa parole, nous obtenons et nous gardons tout ce qu'il dit qu'il nous a déjà donné. Retiens ce que tu as, Satan s'efforce constamment de nous reprendre ce que nous prenons des mains de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous avertit, retiens ce que tu as, Apocalypse 3, 11. Jésus avait donné à Pierre le pouvoir de marcher sur l'eau, mais le diable lui a repris en attirant son attention sur le vent qui représente les choses que nous sentons et sur les vagues qui représentent les choses que nous voyons. Pierre avait la puissance et l'a utilisée. Mais il l'a perdue en doutant. Combien de personnes perdent la manifestation de leur guérison, qui pourtant était en train de se produire, en détournant leur attention de Christ et de sa parole, pour la fixer sur leurs sensations. Avant de vous décider à marcher par la foi pour votre guérison, vous devez régler absolument cette question, et être résolu à ne voir que Dieu et ce qu'il a dit, lorsque vous aurez commencé à marcher par la foi. À partir de ce moment, vous devrez bannir absolument le doute de vos pensées, parce que le seul fondement sur lequel vous aurez posé la plante de vos pieds sera la parole de Dieu. Si vous surveillez alors vos sensations et vos symptômes, vous serez comme un fermier qui déterre sa semence pour voir si elle germe. Faire cela tue la semence à la racine. Un fermier digne de ce nom, après avoir planté sa semence, dit avec satisfaction, « Je suis heureux que ce soit fini. » Et il croit que la semence a commencé. Page 111. À travailler avant même qu'il puisse la voir grandir. Pourquoi ne pas avoir la même foi en la semence incorruptible, la parole de Dieu, et ne pas croire qu'elle accomplit déjà son œuvre, sans attendre de le constater de vos yeux? En recevant une guérison surnaturelle, la première chose que vous devez apprendre est de cesser de vous inquiéter de la condition de votre corps, parce que vous l'avez remis entre les mains du Seigneur, et qu'il a pris la responsabilité de vous guérir. Vous devez être heureux et confiant, parce que vous savez qu'il a donné sa propre parole et promis de s'occuper de tous les cas qui seront confiés à sa responsabilité. En recevant la guérison par la foi, vous perdez de vue votre corps et ses sensations pour ne considérer que le Seigneur et ses promesses. Avant même d'être conscient d'un quelconque changement physique, la foi se réjouit et dit, il est écrit. Jésus a remporté ses grandes victoires en disant, il est écrit. Et en croyant en ce qui était écrit. Toute sensation défavorable ou contraire devrait être considérée comme un avertissement à ne pas nous occuper de notre corps, mais de nous attacher d'autant plus à la promesse du Seigneur et de ne nous occuper que de lui. Il vaut mieux, et de loin, être en communion avec Dieu et se réjouir de sa fidélité que de se préoccuper d'un corps malade. C'est ainsi que nous avons vu des multitudes accomplir de grands progrès spirituels, alors que d'autres délaissaient la douce communion qu'ils avaient avec Dieu, pour retomber dans les soucis que leur causaient leurs sensations et leurs symptômes. Comment la foi peut être fortifiée dans Marc 9, 24, nous voyons que le Père, qui recherchait la guérison de son fils, s'est écrié, tout éploré, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Il a demandé à Jésus-Christ de l'aider, et il a reçu ainsi l'aide dont il avait besoin. Il a donc atteint une position spirituelle, plus élevée que celle des apôtres, réussissant là où ils avaient échoué. En grec, le Saint-Esprit est appelé « le paraclet », ce qui signifie « celui qui aide, qui console ». Dieu soit béni. Le chrétien peut toujours avoir son aide chaque fois qu'il en a besoin. Le Saint-Esprit est toujours prêt à produire en nous ce qui, page 112, lui est agréable. Ceci inclut tout particulièrement la foi, parce que, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Puisque la foi est tellement agréable à Dieu, il veut la produire dans notre cœur, par sa parole et par son esprit. Le Saint-Esprit est toujours prêt à aider chaque chrétien à mettre sa foi en action pour s'emparer de n'importe quelle bénédiction que Dieu lui promet dans sa parole. La Bible nous dit que Christ est capable de sauver parfaitement. Ceci inclut en particulier le fait de nous délivrer de notre incrédulité. Car l'incrédulité est un péché, et le Saint-Esprit est venu pour nous convaincre de péché. Soyons donc résolus à n'écouter que sa parole, et confessons à Dieu notre incrédulité. Puis comptons sur lui pour qu'il nous en délivre, comme il le ferait pour tout autre péché. Sa grâce est toujours suffisante, pour faire triompher en nous la foi, pour que nous saisissions toutes les bénédictions qu'il nous offre. Le Saint-Esprit est toujours prêt à accomplir dans notre vie toutes les promesses que Dieu nous a données. Qu'est-ce qui constitue la justice d'un homme? Qu'est-ce qui constitue la justice d'un homme? La Bible nous dit à maintes reprises qu'Abraham a été considéré par Dieu comme un homme juste. Comment Dieu a-t-il considéré qu'Abraham était juste? C'est très simple, Abraham crut à Dieu et mit sa foi en action. Il a tellement bien cru et agi qu'il a reçu de Dieu l'accomplissement de sa promesse. Faire cela, c'est le summum de la justice. Il n'y a rien qui soit plus important que cela. Rien n'est un plus grand privilège, parce que ce n'est que de cette manière que Dieu peut accomplir le glorieux programme qu'il a conçu pour chacun et pour l'Église. Il n'existe aucun autre moyen d'accomplir la volonté et l'œuvre de Dieu. Lorsqu'on a posé à Christ la question suivante, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Il répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. » Jean 6, 28-29. Dieu ne peut œuvrer que s'il se trouve en face d'une foi vivante en l'accomplissement de ses promesses. Puisque nous sommes considérés comme justes, lorsque nous croyons à Dieu, c'est donc l'incrédulité qui constitue l'iniquité ou l'injustice. L'incrédulité est quelque chose d'inique et d'impie parce qu'elle bloque ou annule le programme divin, c'est-à-dire tout ce que Dieu a promis de faire en réponse à la foi. Il n'est donc pas étonnant que Dieu ait envoyé le page 113 Saint-Esprit pour convaincre le monde de ce péché d'incrédulité. Dieu considère comme de l'iniquité tout ce qui nous empêche d'avoir une foi vivante pour accomplir la volonté de Dieu. Même si nous l'habillons de religion, c'est quelque chose qui a pris la place de sa justice. Christ est capable de nous sauver parfaitement, c'est-à-dire qu'il est capable de nous sauver de notre incrédulité, si mortelle pour l'accomplissement du glorieux programme divin. Le Saint-Esprit nous est donné pour nous guider dans toute la vérité, pour que nous puissions croire à la vérité et pour que tout le programme de Dieu puisse être exécuté. Beaucoup de personnes croient en Dieu, mais ne croient pas à Dieu, comme l'a fait Abraham. Notre seul devoir, et notre plus grand privilège, c'est d'avoir une foi ferme en tout ce que Dieu nous a révélé comme étant sa volonté pour nous. Combien Dieu déverserait les flots de sa puissance sur le monde entier, si tous ceux qui confessent son nom mettaient tout en œuvre, pour découvrir ses vérités divines, pour les garder avec une foi vivante, et pour les mettre en pratique. La foi en Dieu peut s'appuyer sur un fondement bien plus solide que celui sur lequel s'appuie le péché et la maladie, car elle bénéficie de l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit libérera votre esprit de tous les doutes si vous lui faites confiance pour cela et si vous gardez votre attention fixée sur la parole de Dieu. Les glorieuses et éternelles réalités que Dieu fait contempler aux yeux de la foi prennent toujours le dessus sur le cancer ou la maladie que les yeux physiques peuvent voir, à condition que ces réalités soient réellement et fermement contemplées. Le doute, le péché et la maladie peuvent toujours être détruits par une utilisation correcte des yeux de notre cœur, Éphésiens 1, 18. C'est la méthode infaillible pour nous saisir de toutes les bénédictions de Dieu. Toutes les glorieuses victoires de la foi énumérées au chapitre 11 des Hébreux ont été obtenues par une utilisation correcte et persévérante de cette meilleure vue. La loi de l'esprit de vie qui guérit notre âme et notre corps est bien plus forte que la loi du péché et de la mort. Cette loi divine, si nous ne la bloquons pas, produira toujours ses conséquences un million de fois s'il le faut. Tous ceux qui sont décidés à obtenir les bénéfices, page 114, de l'expiation dispose en la personne du Saint-Esprit de quelqu'un d'infiniment capable de les aider et dont la puissance ne peut jamais être mise en échec quand on lui fait confiance. De même que la grâce de Dieu est plus forte que le péché, ainsi la vertu guérissante de Christ est bien plus puissante que la gravité de n'importe quelle maladie. Quand l'épreuve que Dieu donne à notre foi sa propre parole occupe toutes nos pensées, elles sont bien plus fortes que toutes les preuves que Satan nous donne pour nous faire douter. Qu'est-ce que l'exercice de la foi? Jésus a dit à l'homme, qui avait la main sèche, étends tes mains. Marc 3, 5. Jésus donne d'abord la foi, puis nous appelle ensuite au merveilleux exercice de la foi. L'homme étendit la main, confiant dans la puissance divine, et elle fut guérie. Quand nous faisons un effort pour agir en nous appuyant sur Dieu et pour faire ce qui serait impossible à faire sans lui, Dieu nous donne sa divine puissance et la chose est accomplie, quelle qu'elle soit. Quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, nous pouvons dire « Tout est possible à celui qui croit, pas à celui qui s'en croit capable ». Nous voyons que la capacité de cet homme ne résidait pas en lui, mais en Christ, dans lequel tous les aspects de notre salut sont contenus. « Je puis tout par Christ qui me fortifie » Philippiens 4, 13. Par notre union avec Christ, le vrai cep, sa force nous est toujours disponible et nous devons la mettre en œuvre. En faisant un effort pour étendre sa main, l'homme a ouvert la voie à la guérison et a permis au flot de la vie divine de l'atteindre. Cet acte de foi commence sur le plan naturel et ouvre la voie à la puissance surnaturelle qui peut alors répondre à notre besoin. L'acte de foi se transforme aussitôt en action entièrement surnaturelle par la vertu de la puissance divine. Le corps peut alors accomplir ce qui lui était impossible dans son état précédent, par un acte indépendant des forces naturelles, mais dépendant pleinement de l'intervention divine. Cet acte de foi n'est pas seulement un acte physique, mais il comprend un exercice de notre cœur et de nos pensées. Le plein exercice de notre foi signifie que nos pensées, nos paroles et nos actes sont tous imbibés de foi. Une telle attitude amène l'accomplissement de tout ce que la foi a saisi, selon les promesses de la parole. Page 115. Peut-être demanderez-vous, comment peut-on mettre notre foi en action quand il s'agit de guérir de la cécité ou d'une maladie qui n'immobilise pas le corps? Jésus a dit à l'aveugle, « Va te laver à la piscine de Siloé ». Cet acte donna à l'homme la possibilité de mettre sa foi en action dans ses pensées, son cœur et son corps. Il en fut de même pour Naaman, pour les 10 lépreux et pour le centenier. Dans chaque cas, ils s'en allèrent en se confiant en la parole de Dieu et ils crurent qu'ils possédaient la guérison avant même de la voir se manifester. Si vous décidez de me faire un cadeau et que vous venez me dire que vous avez déposé 5000 francs en ma faveur sur mon compte bancaire, si j'ai confiance en vous, je mettrai ma foi en action et je commencerai à tirer des chèques selon mes besoins dans la limite de la somme disponible. Je n'aurais pas vu l'argent sur mon compte en banque, mais j'en serais autant propriétaire que si je le tenais dans mes mains. Il en est de même pour la guérison que Dieu nous a acquise en Christ. La maladie ne m'appartient plus. J'en ai été racheté, mais la guérison m'appartient. Elle est sur mon compte bancaire céleste. Je commence donc à tirer des chèques de guérison. Comment? En m'efforçant de faire, en son nom, ce que je ne pouvais pas faire sans lui. C'est cela, mettre sa foi en action, tirer des chèques de guérison et de santé sur la banque de Dieu. C'est compter sur quelque chose que nous ne sentons pas et ne voyons pas, mais qui nous appartient en vertu de la parole de Dieu, de la même manière que je serais propriétaire de l'argent dont vous m'auriez fait cadeau, sans l'avoir jamais vu ni senti. L'arbre cerclé, peut-être que quelqu'un me dira alors, comment puis-je dire que je suis guéri quand je sens encore la maladie dans mon corps et que je suis conscient de la douleur? Il m'arrive de donner une illustration simple, pour rendre cette vérité plus claire. L'une des méthodes utilisées pour tuer un arbre consiste à lui placer un cercle de fer autour du tronc. Quand nous voyons un arbre ainsi cerclé, nous pouvons dire qu'il est déjà mort. Son feuillage peut encore rester vert et frais pendant quelque temps et il peut avoir toute l'apparence de la vie. Notre œil physique voit l'arbre en vie. Mais l'œil de notre intelligence, dont la connaissance dépasse ce que... Page 116. Voit l'œil physique, voit déjà l'arbre comme étant mort. Au temps marqué, les feuilles vont se dessécher et tomber. La mort, que l'œil de notre intelligence avait déjà discernée, est rendue alors visible à nos sens physiques. Il en est de même lorsque nous saisissons par la foi la guérison de notre corps. Lorsque nous saisissons la parole de la promesse et que nous recevons par la foi l'œuvre, parfaitement accomplie par Jésus, l'épée de l'esprit porte un coup mortel à la maladie. Pendant un certain temps les symptômes peuvent rester, mais l'œil de la foi contemple le divin crucifié qui a détruit la maladie et qui nous a donné la santé. Nous pouvons alors appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient et la vie divine se manifeste dans notre corps. C'est ce que la foi saisit comme vrai qui se manifeste ensuite à nos sens. La foi sait que Dieu, dans son amour et son omnipotence, veille sur sa parole pour l'accomplir. Il n'est même pas scientifique d'être conduit par nos sens physiques, parce qu'ils sont incapables de saisir toutes les réalités en présence. Ils ne peuvent pas saisir les réalités les plus grandes et les meilleures. Rechercher la guérison, par des moyens naturels, seulement est anti-scientifique, parce que cela revient à négliger les choses les plus importantes, c'est-à-dire la cause surnaturelle de la maladie et les moyens surnaturels que nous donne le Seigneur pour guérir. Nous bénissons Dieu pour les milliers de personnes qui ont reçu leur guérison de cette manière. Développer la foi qui permet d'obtenir la guérison est un bienfait beaucoup plus grand que la guérison elle-même. Les Écritures nous montrent de nombreux héros de la foi qui se sont rendus célèbres pour avoir recherché auprès de Dieu des bénédictions que nous appelons matérielles. Quand nous avons compris ce qu'était la foi, pour obtenir la guérison, nous avons compris comment recevoir toutes les autres bénédictions que Dieu promet dans sa parole. En leur offrant la guérison que Christ leur a acquise, l'Église pourrait gagner des millions d'âmes pour le service du Seigneur et en faire des combattants capables de mener le « bon combat de la foi ». en apprenant à être guéri par la foi en Jésus-Christ, puisses-tu, cher lecteur, progresser dans une vie de foi qui te permettra d'être utile dans le royaume de Dieu. Page 117. Page 118. Chapitre 7. La confession de notre foi. Beaucoup de gens ne parviennent pas à recevoir ce qu'ils demandent parce qu'ils n'ont pas compris l'importance de la confession. Hébreux 3, 1 par le 2, la foi que nous professons. Professer signifie aussi confesser. C'est le même mot grec qui est traduit à la fois par professer et confesser. Que signifie ce mot? En grec, ce mot signifie dire la même chose que quelqu'un. Cela veut dire croire et dire ce que Dieu dit à propos de nos péchés, de nos maladies et de tout ce qui est compris dans notre rédemption. La confession est une affirmation d'une vérité biblique que nous avons acceptée. La confession est tout simplement croire dans notre cœur et répéter avec nos lèvres les propres déclarations de Dieu concernant ce que nous sommes en Christ. Dans 1 Pierre 2, 24, le Saint-Esprit dit « Par les meurtrissures duquel vous avez été guéri ». Nous devons croire et dire la même chose. Lorsque ce que nous affirmons est la parole de Dieu, le Seigneur veille sur ce que nous disons pour l'accomplir. Jérémie 1, 12. La foi s'exprime toujours par la confession de nos lèvres. Le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, dans Hébreux 3, 1, Dieu nous commande de considérer Jésus-Christ, l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous, page 119, professons. En tant que souverain sacrificateur, Jésus agit en notre faveur, en fonction de ce que nous confessons, si cela est en accord avec la parole de Dieu. Paul nous dit qu'il prêche la parole de foi, qui dit ceci, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10, 8. La relation entre la confession et la manifestation, veuillez noter ici que la confession, c'est-à-dire le fait de dire la même chose que Dieu est faite par la foi. Il faut croire et confesser avant de voir la manifestation. Notre confession de Jésus comme Seigneur vient d'abord. Puis Jésus, notre souverain sacrificateur, répond en nous accordant la nouvelle naissance. Ce n'est pas le salut qui précède la confession, mais la confession qui précède le salut. Il est impossible d'avoir le salut sans confesser d'abord Jésus comme Seigneur. La foi, c'est agir en nous appuyant sur la parole de Dieu. Une telle attitude permet toujours à Dieu d'accomplir sa promesse. Que devons-nous confesser? Peu de chrétiens ont compris aujourd'hui la place de la confession dans le plan de Dieu lorsqu'il nous faut saisir ses bénédictions. Quand on emploie le mot « confession », beaucoup de gens pensent instinctivement au fait de confesser ses péchés, ses faiblesses ou ses échecs. Mais cela n'est que le côté négatif de la confession. Notre confession négative du péché n'était nécessaire que pour ouvrir le chemin à la confession positive qui mène au salut et à toute une vie où nous pourrons croire dans notre cœur et confesser de notre bouche tout ce que Dieu nous dit dans ses promesses. Page 120. Nous commençons par confesser le salut et la nouvelle naissance, puis nous continuons en confessant toutes les autres bénédictions qui nous sont promises dans la parole de Dieu. Puis nous devons agir à chaque étape de notre salut conformément à ce que nous savons. Nous devons croire dans notre cœur et confesser de nos lèvres toute cette parole de foi que Paul prêchait. Il a prêché tout le conseil de Dieu. Il a prêché les richesses insondables de Christ. Il a dit aux disciples qu'il ne leur a rien caché de ce qui leur était utile. Actes 20, 20. Tout ce que Jésus a accompli dans son œuvre substitutive est la propriété personnelle de tous ceux pour lesquels il l'a accompli. C'est pourquoi, tout au long de notre vie chrétienne, Dieu nous demande de croire dans notre cœur et de confesser de nos lèvres tout ce qu'il dit que nous sommes en Christ. Nous ne devons ni ignorer ni négliger notre position légale en Christ, car elle constitue la base de tous nos actes de foi qui permettront à Dieu d'accomplir sa parole en notre faveur. Nous devons confesser et murmurer dans notre cœur « J'ai tout pleinement en lui ». Colossiens 2, 10. Quand nous apprenons que Dieu dit dans ses paroles « Je suis l'Éternel qui te guérit », nous devons le croire dans notre cœur et le confesser de nos lèvres. Christ agira alors en tant que notre souverain sacrificateur et l'accomplira dans notre vie. Nous devons confesser que le sacrifice de Jésus au calvaire nous a complètement libérés de l'esclavage de Satan et de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Nous devons mettre nos actes en accord avec cette confession. Nous devons confesser que nos maladies ont été placées sur Christ et que nous avons été rachetés de la malédiction de la maladie. Que le faible dise « Je suis fort, car l'Éternel est ma force ». Notre confession inclut toutes les vérités de l'Écriture, tout ce que le sacrifice de Jésus nous a acquis, tout ce qu'il accomplit en tant que souverain sacrificateur, et toute la volonté révélée de Dieu. Nous devons confesser que notre rédemption a été parfaitement accomplie, que la domination de Satan est terminée, car le calvaire nous a affranchis. Nous ne devons pas confesser ce que nous disent nos sens ou nos sensations. Page 121. La rémission de nos péchés signifie que tout ce qui concerne notre vie passée a été complètement effacé. Nous sommes une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devons sans cesse confesser que nous avons été rachetés de l'esclavage de Satan. Bien entendu, nous ne devons pas dire aux autres que notre guérison est pleinement manifestée sur le plan physique, tant qu'elle ne l'est pas encore. Dieu ne nous demande pas cela. Mais nous pouvons répondre à ceux qui nous le demandent, je m'appuie sur la parole de Dieu. Une mauvaise confession, nous ne pouvons jamais avancer au-delà de notre confession. Une confession négative nous fera reculer au niveau de cette confession. Nous sommes en réalité gouvernés par ce que nous confessons de nos lèvres. Notre confession nous emprisonnera si elle est négative et nous libérera si elle est, selon la parole de Dieu. Beaucoup de gens parlent tout le temps de leurs échecs et de leur manque de foi. Ils reculent immanquablement au niveau de leur confession. Le fait de confesser le manque de foi augmente l'incrédulité. Chaque fois que vous confessez vos doutes et vos craintes, vous confessez en réalité votre foi en Satan et vous niez la puissance et la grâce de Dieu. Quand vous confessez le doute, vous vous liez par vos propres paroles. Proverbe 6, 2 dit « Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche ». Lorsque nous mettons la parole de Dieu en doute, c'est parce que nous croyons à quelque chose d'autre qui est contraire à cette parole. Une mauvaise confession ferme la porte à notre Père Céleste et ouvre la porte à Satan. Nous devons refuser dorénavant de faire la moindre confession négative. Une fois que nous avons compris que nous ne pouvons pas aller au-delà de notre confession, nous pouvons être en mesure d'être utilisés par Dieu. Page 122. La maladie peut augmenter son emprise quand nous confessons le témoignage de nos sens. Les sensations et l'apparence extérieure n'ont rien à faire dans le domaine de la foi. Le fait de confesser la maladie revient à signer le reçu prouvant que vous avez accepté un paquet poste qui vous était adressé. Satan est alors en possession de votre reçu qui prouve que vous avez accepté son paquet. N'acceptez rien de ce que Satan vient vous livrer. Ne donnez pas accès au diable. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, 1 Pierre 4, 11. Dans Éphésiens 4, 29, le Seigneur nous demande de ne dire que des paroles qui servent à l'édification. Nous ne devons pas rendre témoignage à notre adversaire. Nous devons agir dans la foi, parler dans la foi et penser dans la foi. Dans Philippiens 4, 8, le Saint-Esprit dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Le Saint-Esprit dit, dans le livre des Proverbes, « Il est tel que sont les pensées dans son âme. » Dans 2 Corinthiens 10, 4-6, le Saint-Esprit dit, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Nous devons renverser les raisonnements et donner à la parole de Dieu toute sa place dans nos pensées et sur nos lèvres. Nous devons avoir la pensée de Christ. Jésus n'a pas oublié qu'il s'est chargé de nos maladies sur la croix et le Saint-Esprit nous commande de n'oublier aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Les transformations spirituelles et physiques que Dieu veut apporter dans notre vie doivent être opérées par le renouvellement de notre intelligence. Romains 12, 1-2 dit « Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps le domaine de nos cinq sens, comme un » Page 123. Sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. peu connaissent cette loi spirituelle, selon laquelle ce sont les choses que nous confessons qui nous gouvernent. Ce sont les choses que nous confessons de nos lèvres qui dominent réellement notre être intérieur. Faites en sorte que vos lèvres accomplissent leur devoir. Refusez de leur permettre de détruire l'efficacité de la parole de Dieu dans votre situation. Certains confessant de leurs lèvres, mais ne croient pas dans leur cœur. Ils disent, oui, la parole de Dieu est vraie, mais leur cœur dit, elle n'est pas vraie dans mon cas. La confession de vos lèvres n'a aucune valeur si votre cœur refuse de croire ce que vous dites. Demeurons fermes dans notre confession. Hébreux 4, 14 dit, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, confessons. Il s'agit de la confession de notre foi dans l'œuvre rédemptrice que Dieu a accomplie par Jésus-Christ.